Pause Famille, une émission avec Bénédicte Dujonquois, conseillère conjugale et familiale. Elle répond aux questions d'Antoinette Martin.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Pause Famille. Nous allons aborder aujourd'hui le thème du couple. Est-ce que dans un couple, on peut être uni et différent? Alors Bénédicte Dujonquois, vous recevez des couples qui rencontrent des difficultés parce que parfois ils ont du mal à gérer leurs différences. Et ces différences peuvent fragiliser la relation, même si le couple s'entend plutôt bien. Alors la question, c'est comment conjuguer dans le couple le fait d'être uni et différent?
Alors c'est vrai que quand je reçois des couples en conseil conjugal, la plupart d'entre eux arrivent en parlant de leurs différences qui leur paraissent insurmontables. Et pourtant, quelque chose les unit, un lien qu'ils ne veulent pas rompre. Alors tout l'enjeu du travail, de la réflexion, va être que chacun accède à ce que j'appelle la singularité. Que chacun entende la singularité de son conjoint. Et puis qu'avec ces deux singularités, ils bâtissent ou ils rebâtissent certains un « nous ». En fait, c'est un vrai défi de vivre l'unité avec deux singularités.
Alors expliquez-nous un petit peu, parce que singularité, qu'est-ce qu'il y a derrière?
Chacun de nous est unique. Il n'y a pas une photocopie de moi ou un clone de moi. Et dans le couple, chacun des conjoints arrive avec un sac à dos rempli de son histoire. Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sac à dos. Son histoire, son tempérament, ses idées, ses croyances. Je pense par exemple que dans certaines familles d'origine de l'un, il n'y avait par exemple aucune manifestation de tendresse. Et puis dans la famille de l'autre, ben, les gestes et le côté tactile étaient très importants. Ou bien dans la famille de l'un, on partait en vacances. Et dans la famille de l'autre, non, on ne partait pas. Ou bien dans la famille de l'un, on discutait de beaucoup de choses à table et dans la famille de l'autre, les repas, ils étaient expédiés. Ou bien le sujet de l'argent qui pouvait être tabou et dans une des familles, et pas dans l'autre. Donc, deux singularités.
Alors, est-ce que cela signifie avoir regardé son histoire personnelle et en parler à deux? Est-ce que c'est parce que peut-être on n'a pas assez approfondi, assez un sujet, que tout d'un coup, ça devient difficile?
C'est important, bien sûr, de regarder d'où je viens et ce qui m'a constitué. J'espère qu'on peut le faire en préparation au mariage. Mais en même temps, on peut en avoir parlé au début de la relation sans réaliser que ces différences avec les années ne peuvent pas être lissées. Les différences, elles restent. Et en parler par la suite régulièrement, sans jugement, bien sûr, ça évite bien des incompréhensions.
Alors, est-ce que vous avez des exemples? Parce qu'il y a différences et différences, j'imagine.
Alors, par exemple, des différences qui sont dès le départ, c'est par exemple la tenue à table ou bien l'un des deux qui a une voix un peu élevée quand ça chauffe un peu. Et au fur et à mesure de la vie conjugale, ça va devenir un peu compliqué. Parce que celui qui a du mal à supporter la voix élevée ou que ça chauffe un peu, il se rappelle que dans le couple de ses parents, il y avait un peu de violence. Donc, dès que le conjoint hausse un peu le ton, c'est pris pour de la violence. Ou bien, pendant des vacances en famille ou avec des amis, un des conjoints aimerait être tranquille avec son mari, sa femme, avoir un moment d'intimité. En fait, il réalise que ses parents ne s'occupaient pas de lui et que donc il a besoin un peu, pas d'exclusivité, mais de moments de qualité à deux. Et je crois que beaucoup de conflits ou d'incompréhensions conjugales sur les différences de comportement ou de personnalité, c'est clair quand on peut les voir à la lumière de l'histoire de chacun.
Mais alors, il y a quand même des différences qui sont des entraves à la relation?
Oui, si elles n'ont pas été réfléchies, ce qu'on dit conscientisées, travaillées au début de la relation. Je pense à des différences culturelles, religieuses ou une grande différence d'âge. Moi, les couples que je reçois qui sont en formation de couple, qui se posent la question, qui veulent discerner, etc., je mets le doigt avec eux sur ces différences. Et vraiment, je mets au jour que c'est effectivement, si on n'a pas la même religion, si on n'a pas du tout la même culture de famille, si on a une grande différence d'âge, il faut le savoir et que ça ne va pas changer. Et donc, quelquefois, ces différences, elles créent un fossé au fil du temps. Et du coup, ça peut mener à la séparation. Mais si on voit l'autre comme un ennemi qui fait rien comme moi, on va dans le mur. Par contre, il y a une façon positive de parler des différences. Les reconnaître, en parler, accepter qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais comportement. Et puis, il y a aussi croire que ces différences, elles peuvent être complémentaires et en faire une richesse pour le couple.
Alors, quand le couple a parlé des différences de chacun, voilà, comment faire pour rester unis tout en restant deux ?
Alors, derrière les différences, il y a des besoins différents. Accepter que l'un, par exemple, ait besoin de faire du sport et que l'autre aime visiter un musée, que l'un soit casanier et que l'autre ait besoin de relations amicales fréquentes, voilà, il y a des besoins différents. Ces besoins, ils sont vitaux. Un besoin, c'est vital. Voilà. Et l'étape d'accepter les besoins de l'autre, bien sûr, si ce n'est pas que dans un sens, c'est l'autonomie. Vous voyez, je prends souvent l'exemple de, je l'ai peut-être déjà donné à la radio d'ailleurs, de, quand je parle d'autonomie, je prends l'image d'un enfant qui joue à côté de ses parents sans les voir et qui va passer la tête pour aller voir un des parents qui est dans une autre pièce en disant « tu peux me mettre le petit chapeau du Playmobil ». Voilà, il sait que ses parents sont là, mais il n'est pas collé à eux. Et je pense que c'est accepter, uni et différent, c'est que chacun ait des activités différentes liées à ses besoins, sans penser qu'on est incompris ou délaissé.
Alors, comment travailler sur ce qui unit le couple quand il a identifié les besoins différents de chacun, qui est déjà une vraie démarche, hein ?
Alors, moi, j'aime bien travailler le lien conjugal. Pour moi, c'est passionnant. C'est-à-dire, c'est voir ce qui unit profondément ce couple. C'est-à-dire de relire comment, dans leur histoire conjugale, ils ont affronté ensemble des soucis et comment ils se sont appuyés sur leurs différences. Et ça, ça renverse la vapeur, parce qu'un couple qui est arrivé en disant « on est trop différents, on ne peut pas se comprendre », j'aime bien voir comment les différences, en fait, les ont aidés à faire grandir leur relation.
Alors, par exemple,
dans un déménagement, j'entends par exemple un mari qui va dire « ah ben franchement, on n'est pas pareil, mais toi, vraiment, tu as apporté de la sécurité avec les enfants. Tu as vraiment sécurisé, tu leur as bien parlé du déménagement. Moi, je suis un peu brute de pomme, je ne sais pas forcément faire. Voilà. Et toi, tu as aidé les enfants à vivre cette étape. Voilà. Et c'est une de nos différences. » Et puis elle a pu dire « eh ben écoute, toi, tu nous as demandé de te faire confiance. Et du coup, tu as montré comment ça allait bien se passer, quoi. Tu avais confiance dans le changement. Et moi qui ai un peu peur, dit la femme, eh ben, ça m'a beaucoup aidée. » Voilà. Construire sur les différences et voir comment on a pu s'appuyer sur elles. Et puis revenir sur ce qui a été bon pour la relation. Voilà, moi j'aime bien faire un peu le ménage en disant « mais qu'est-ce qui a été bon pour votre relation avant cette crise ou avant cette explosion des différences ?» Eh bien, on avait des amis qu'on voit moins, c'est des amis ressources pour notre couple. Ou bien on avait un engagement solidaire. Je me souviens d'un couple qui m'avait dit ça. Ils ont repris cet engagement solidaire. Ou un couple qui disait « ben, nous on aimait beaucoup la randonnée ». On a complètement laissé tomber. Et bien là, ils sont partis aux vacances suivantes, ils sont partis en randonnée. Ou bien un couple qui faisait partie d'une chorale. Alors, ils avaient complètement oublié. On a parlé de la chorale. Ils se sont réinscrits à une chorale. Ou un élan spirituel. Et je pense à un couple que j'ai vu qui était vraiment en crise, mais il y a longtemps, qui disait, nous, on a besoin de se donner. Comment on va faire ? Et ils ont trouvé un engagement commun sur la paroisse. Et ça a été très, très important pour eux. Voilà. Et dans ce cas-là, j'aime bien citer le pape François qui parle de diversité réconciliée. Il parle de l'unité des chrétiens. Et je pense que ça peut s'appliquer au couple, la diversité réconciliée.
Je vais vous laisser conclure, Bénédicte. Vous aviez envie de citer Kalin Gibran, donc je vous laisse le citer pour conclure.
Oui, alors je cite dans Le Prophète, ce si beau livre, « Ensemble, vous resterez pour toujours, mais qu'il y ait des espaces dans votre communion et que les vents du ciel dansent entre vous. Tenez-vous ensemble. » Mais pas trop proche non plus, car les piliers du temple s'érigent à distance.
Merci Bénédicte Dujonquois, l'émission s'achève. Je vous rappelle que toutes nos émissions sont sur les podcasts de Radio Fidélité et que vous pouvez trouver les coordonnées de Bénédicte Dujonquois sur le site raphaël.fr. Bonne semaine à tous, à bientôt.